Antoine Robitaille.
Antoine Robitaille.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
Elle a nourri une politique cette semaine sur les souliers de la ministre Duranceau. J'accueille Virginie Dufour. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Députée des Mille-Îles et du Parti libéral du Québec. Ça va bien. Bienvenue d'abord à Là-haut sur la colline. C'est la première fois que je vous accueille. Je suis très content. Dites-moi, est-ce que vous avez regretté vos propos sur les souliers de la ministre? Parce que je rappelle, vous avez dit dans une des questions mardi, dans une de vos questions, un loyer considéré abordable. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une paire de souliers Louboutin. Et il faut deux paires de souliers pour arriver au prix des loyers des nouveaux logements. Évidemment, vous faisiez référence, comme il a été abondamment fait référence sur Twitter, aux fameux souliers de Marie-France Duranceau, la ministre de l'Habitation.
Écoutez, France-Hélène, je vais corriger.
France-Hélène, pardon, oui.
je vais répéter ce que j'ai dit. J'en ai rien à cirer de ce que porte la ministre. Pour vrai, c'est pas quelque chose qui m'importe. Par contre, je voulais mettre de l'avant le fait qu'il n'y a rien qui se passe pour stimuler la construction de logements. À l'exception des logements sociaux, il n'y a aucune mesure. Le gouvernement ne prend.
Oui, mais je vous arrête. Je vous ai entendu dire « j'ai rien à cirer », mais vous avez quand même fait référence à ça. Donc, vous vouliez quand même faire image.
C'est une image pour montrer à quel point les loyers ont monté et qu'il faut agir. Comme je disais, il n'y a aucun... je pense que les gens peuvent porter vraiment tout ce qu'ils veulent. Je l'avais pas commenté sur les réseaux sociaux ce qu'elle portait. Non, pour moi, c'était vraiment...
Mais est-ce que c'était déplacé de sa part de porter ces souliers-là lors d'une annonce de construction de logements?
Je pense que ça ne nous regarde pas. En toute franchise, ça ne nous regarde pas ce qu'elle porte et ce que tout le monde porte. Je pense que chacun est libre de faire ses choix vestimentaires.
Alors, pourquoi y faire référence? C'est ça que je comprends pas.
C'est plus un élément comique parce que ça m'a frappé que quand les souliers sortaient, la valeur des souliers, que c'était à peu près le prix moyen d'un loyer à Montréal aujourd'hui, c'est juste ça, c'était pour montrer qu'on en était rendu là, attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a rien qui se passe actuellement pour stimuler la construction.
Mais ça a déclenché tout un... On va parler d'habitation un petit peu plus tard, là, mais ça a quand même déclenché tout un débat là, sur le fait qu'on est plus attentif à l'apparence des femmes que des hommes en politique. Avez-vous, vous, comme femme en politique, cette impression-là?
Mais c'est... Comme femme en politique, je porte attention à certains éléments, mais c'est une question personnelle. Ceci dit, moi, je ne porte pas attention à ce que les autres portent. Ça, c'est vraiment.
Oui, mais vous y avez fait référence.
Oui, j'ai fait référence dans une question, mais j'en ai pas parlé, puis j'aurais fait aucun commentaire à la ministre si j'en avais parlé en privé. Là, je le dis, c'était vraiment une image pour montrer qu'il faut agir. Et là, malheureusement, ça a attiré l'attention.
Mais vous, depuis que vous êtes en politique, vous avez fait de la politique municipale avant, avez-vous l'impression qu'on vous scrute davantage dans votre habillement?
Il y a un élément qui se passe, c'est certain, quand on est politicienne, je vais vous dire, moi, quand j'étais au municipal, j'avais des conseils de ville, je gardais un registre de ce que je portais à tous les conseils municipaux pour éviter de répéter et de faire l'erreur parce que c'était un conseil de ville par mois. Donc, ça aurait pu arriver que deux, trois mois en ligne, je porte la même chose. Hein, on s'entend, on n'a pas tant de variété que ça. Mais je faisais cet exercice-là, alors qu'il est vrai qu'un homme n'a pas à faire cet exercice-là. Il peut être en complet noir ou bleu tous les jours, puis on ne se posera jamais la question.
Si oui, moi, je suis toujours habillé pareil, quasiment, à la haut sur la colline, je l'admets.
Mais c'est sûr qu'il y a une pression sur les femmes. Ça, c'est pas nouveau, on le dit. On doit faire un petit peu plus attention.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une pression pour les hommes aussi? Parce que je pense aux cheveux de Justin Trudeau, dont on a beaucoup parlé, aux chaussettes de Justin Trudeau. Pierre Poilievre, on a fait tout un cas de son changement d'apparence. Ses cheveux qui étaient gobinés, il porte des T-shirts maintenant. Et évidemment, je passe Rapidement sur Donald Trump, dont on commente la cravate, le veston, les cheveux, la couleur de la peau. Est-ce qu'il y a vraiment un double standard là-dessus?
Dans le temps, c'était le cas, je crois. Bon, aujourd'hui, écoutez, en toute franchise, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'esthétique, vraiment pas. me coiffer le matin, là, c'est ça me prend à peu près littéralement 30 secondes. Je ne mets pas d'effort là-dedans. Bon, peut-être que je devrais, mais pour moi, l'apparence, ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment nos actions, puis ce qu'on dit aussi. Là, je pense que c'est beaucoup plus ça. Moi, c'est
donc, ça, vous n'avez pas regretté ce commentaire dans votre cette image que vous avez faite dans votre question mardi?
Non, après parce que tout ce que ça amène, ça amène l'attention sur le fait qu'il n'y a rien qui sort de ta. Pour moi, c'était ça. Je voulais mettre l'attention sur le bilan. Et puis, c'est pas juste le bilan de la ministre, c'est le bilan du gouvernement. Et actuellement, il faut que ça bouge. Puis j'ai essayé toutes sortes de façons de repitailler, là. Ça fait un an et demi là, que je suis élue, puis j'ai posé combien de fois des questions à la ministre et que j'ai pas de réponse. Il n'y a rien qui bouge. À un moment donné, on essaye des formules alternatives.
OK, donc il fallait brasser le pommier en donnant un petit coup de soulier sur le pommier.
Je peux vous dire que j'ai talonné la ministre.
Beaucoup. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle s'est mise dans vos souliers?
Dans les miens, je ne sais pas, mais...
Il y aurait une foule de blagues à faire là-dessus.
Oui, exact. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est de mettre l'attention sur le fait que là, il ne se passe rien. La ministre, ça fait un an. Il y a un an, elle a promis que son plan d'action était sur le point de sortir, son plan d'action en habitation. Elle a redit ça à l'automne devant des membres du domaine de la construction. Elle l'a redit en janvier. Ah, ça s'en vient. La réalité, c'est qu'on n'a toujours rien. Elle a tenu des consultations, mais dans les faits, je pense qu'elle n'a juste pas su convaincre le ministre des Finances, son collègue, de mettre les sommes que ça aurait pris pour faire bouger la construction.
Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'on avait remplacé Axelogis par le programme d'habitation abordable du Québec, parce que Axelogis, c'était des enveloppes fermées, puis là, avec l'inflation, ça empêchait la sortie de terre, des édifices. Ouais. Est-ce que c'est ça? Parce que j'essaie de comprendre comme vous je me dis, ça peut quand même pas être juste la faute de Mme Duranceau puis de ses souliers.
Non, parlons du FAC là, qui a été créé. D'abord, c'est aussi des enveloppes fermées. C'est juste qu'elles sont augmentées sporadiquement, mais c'est aussi une des raisons pourquoi ça ne sort pas de terre avec le FAC actuellement. On le voyait cette semaine, là, il y a seulement 9 projets sur
39.
39 exactement, de la première mouture. Axelogis, là, il y avait des améliorations à faire. Certes, il fallait peut-être justement indexer les montants maximaux admissibles de façon importante. Ça aurait été suffisant pour améliorer les choses. On a choisi, à l'époque, l'ancienne ministre, c'est André Laforêt, qui a choisi de créer un nouveau programme pour pouvoir dire que la CAQ a son propre à ça prendre. Et je m'excuse, je l'ai appelé patente à gosse à un moment donné parce que c'est ça. Et on le voit, ils ont dû de l'améliorer. Mais ceci dit, ce que je voudrais dire, c'est que ça concerne seulement les logements sociaux et abordables, les vrais logements les plus abordables. Mais le marché, là où on a besoin de logements, c'est dans l'ensemble du marché. Et là, il n'y a pas d'action. Ce n'est pas le FAC qui va faire en sorte qu'on va construire 70 000 unités par année. Là. Le FAC, c'est peut-être 2 000, 3 000, 4 000 unités par année. Donc, on a besoin de dizaines de milliers d'unités qui soient construites, qui ne se construisent pas présentement. Et pour ça, il faut stimuler le marché. L'Ontario l'a compris, les autres provinces aussi, le fédéral aussi. Ils ont bougé, mais chez nous, au Québec, il n'y a rien qui se passe.
Que feriez-vous si vous étiez au gouvernement?
Vous
avez proposé trois choses, là?
Oui. Bien, ça, c'est des premières propositions, effectivement. Mais la première chose, c'est qu'il faudrait, au moins temporairement, retirer la taxe de vente du Québec, la TVQ des matériaux de construction. L'Ontario et le fédéral l'ont fait sur le locatif. Il faut stimuler la construction. Pas stimuler la demande, il faut stimuler la construction.
Le ministre Girard était assez convaincant, disait ça coûte extrêmement cher, puis est-ce que ça va vraiment stimuler? Est-ce qu'il n'y a pas
ça marche
gens qui vont...
ailleurs.
Oui.
ça marche ailleurs. Puis quand on rencontre les entrepreneurs en construction, là, ce qu'ils nous disent, là, c'est qu'actuellement, à cause des coûts financiers puis de toutes les hausses de coûts qu'il y a eu, le manque de main-d'œuvre a fait monter les coûts, les matériaux de construction ont monté beaucoup. Bref, c'est plus rentable. C'est-à-dire que pour construire et que ce soit rentable, il faudrait sortir sur le marché à des coûts que personne ne peut se payer actuellement. Donc, il faut trouver un moyen de réduire ces coûts-là. Et comme le coût financier est très élevé actuellement, bien, un des leviers, c'est de réduire les taxes. Mmh. Et là, le fédéral l'a fait, ils ont enlevé la TPS sur ça, mais le plus gros pour eux, pour les développeurs, c'est la TVQ. Alors, actuellement, quand on est, par exemple, en Gatineau, en Outaouais, bien, si un développeur s'en va de l'autre côté de la frontière, traverse la rivière, ça coûte 10 % moins cher construire. Et où est-ce qu'il va aller construire? Il va aller construire là-bas. Et les financiers sont à la même place. Ils le voient. Alors, de plus en plus, les capitaux financiers qui financent des gros projets s'en vont vers l'Ontario au lieu d'investir au Québec. Et là, oui, c'est une mesure qui coûte cher. Je suis d'accord. Mais je vais vous poser une question. Combien ça coûte de ne pas construire? Là, on a des gens qui se retrouvent à la rue. Il y a des gens qui sont plus capables. Ils sont saignés à blanc parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de logement. Alors, les coûts moyens de loyer, on le voit, là, ils sont en train d'augmenter à une vitesse folle. Quand on achète par exemple, si on sort sur le marché avec un nouveau logement aujourd'hui, ça va coûter, écoutez, avec les coûts financiers et tout ça, là, 2 800 peut-être par mois. On est dans ces eaux-là. Donc, qui peut se payer ça? Il faut trouver le moyen. Fait que, comme il n'y a pas d'offre qui se crée, bien, tout ce qui sort de terre coûte extrêmement cher.
Si vous étiez au gouvernement, comment vous accueilleriez les initiatives du gouvernement Trudeau? À part la TPS, vous en avez parlé, vous êtes d'accord, vous trouvez qu'on devrait le limiter, mais les autres, là, celles qui ont été annoncées dans l'effeuillage budgétaire?
Oui, bien écoutez, c'est sûr qu'il n'est pas question que le fédéral vienne nous imposer un bail canadien. Le Québec a ses propres lois. Ça découle du Code civil du Québec, le bail québécois. Il n'est pas question qu'on vienne toucher à ça.
Parce qu'en point de presse, une fois, vous aviez l'air à vous soucier très peu des compétences du Québec.
Bien, en fait, c'est que le fait que je n'avais pas les détails. Alors, moi, je venais commenter puis me sauter, monter sur mes grands chevaux sans connaître les détails. Il y a peut-être des partis qui sont à l'aise avec ça, mais moi, je veux dire, j'avais besoin de savoir de quoi on parlait. Là, on a un petit peu plus de détails. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des sommes de disponibles. Il faut aller les chercher. Puis on va les traiter au Québec. Il faut le faire. Ce que j'espère, c'est que les ententes vont signer rapidement. Parce que des fois, on a attendu, il y a une entente là, avec le fédéral, un 2,2 milliards, qu'on a attendu 3 ans pour que la CAQ signe une entente. Ça, c'est 3 ans de délai.
Mais est-ce que c'est la faute de la CAQ ou c'est de la faute du fédéral qui essaie d'imposer des conditions en contravention du principe fédératif, de la fédération. On est une fédération. Ils sont en dehors de leur champ de compétences. Je comprends que vous êtes un adversaire de la CAQ, mais pourquoi toujours s'en prendre au gouvernement du Québec, au fond, à l'État qui défend ses prérogatives?
Bien, c'est que si à un moment donné, ça ne bouge pas. C'est au gouvernement. Là. C'est à la CAQ de signer ses ententes.
Mais c'est au fédéral aussi qu'il y a trop d'argent. Est-ce que le fédéral en perçoit trop d'argent? Il devrait s'occuper de ses compétences, l'armée, les frontières et compagnie. Pourquoi s'occuper de l'habitation logement, et des dents, là, je veux dire?
Les dents, je n'entrerai pas là-dedans, mais l'habitation, ce qui est certain, c'est un, c'est pas vrai que c'est 100% provincial. Il y a quand même des habitations qui relèvent, par exemple, les HLM, ça a été construit par le gouvernement fédéral et il y a des ententes. C'est l'entente que je parlais, le 2,2 milliards, c'est une entente concernant les HLM qui ont été construits par le gouvernement fédéral à l'époque. Alors, qui pense que c'est peut-être plausible que dans certains cas, ça concerne leur construction, qu'ils mettent certaines conditions.
Est-ce que le fédéral est légitime d'imposer des conditions?
Oui, écoutez, ça sort de mon domaine. Là. Je voudrais pas aller parler de constitution ou quoi que ce soit. Là. Je ne veux pas aller là du tout.
À la hausse sur la colline, on est pas mal obsédé par ça. Pardon.
mais parfait. Mais moi, mon obsession, c'est l'habitation. J'ai besoin de voir des habitations qui se construisent, des logements. Écoutez, on a des entreprises qui s'en viennent. On attire énormément d'entreprises actuellement pour développer, par exemple, la filière batterie. Mais où va-t-on loger ces travailleurs? On a ce questionnement-là. c'est inquiétant pour les communautés. Tu sais, si on regarde à Gaspé, où il n'y a plus de place, ils sont à zéro de taux d'inoccupation. Zéro. Monsieur Robitaille, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je sais pas
mais si... est-ce que c'est à l'État à construire les logements?
Ah non, c'est pas à l'État de construire, mais c'est à l'État de mettre les conditions favorables pour
alors,
que
outre
les
la TPS, outre la TVQ, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, écoutez, il y a des délais de branchement qu'on a vu d'Hydro-Québec qui étaient problématiques dans certains secteurs, notamment, on l'a vu à Gatineau, il y avait des projets qui étaient retardés par ça. Donc, c'est sûr qu'il faut prioriser là, absolument les branchements. Il faut accélérer la chose. Tu sais, quand on est rendu puis des projets, ça prend 3 ans à être connecté. C'est trop long. C'est trop long. On a besoin d'agir vite. L'autre élément, on en a beaucoup parlé, c'est les délais d'émission des permis municipaux. Il y a des inquiétudes que ça prend trop de temps. Bien, nous, ce qu'on a dit, bien, OK, on va donner un fonds pour accélérer ça, mais qui va être dédié aux infrastructures municipales, parce que ça, c'est l'autre grand frein actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui pourraient se faire, mais qui ne se font pas parce que les infrastructures souterraines sont pas, ou les usines de traitement d'eau usée, eau potable, qui sont pas à niveau.
Et vous avez été conseillère municipale?
Oui.
Ben, pourquoi à Laval, par contre, ça a construit en maudit, non? Mais est-ce qu'il y a des lenteurs là aussi?
Oui. Puis on avait fait des études à l'époque. Il y a des secteurs qu'on ne pouvait pas développer. Moi, j'ai accompagné des gens là, pendant 15 ans. Ils ne pouvaient pas construire du tout parce qu'il n'y avait pas les infrastructures. Puis nous, comme ville à l'époque, on n'avait pas les moyens d'amener ces infrastructures-là. Il faut prioriser, les municipalités doivent le faire. J'ai rencontré le maire, c'est de Léry, là, il y a un projet, Léry, c'est une petite municipalité sur la rive sud, un projet de 2000 unités qui est bloqué parce que l'usine d'eau usée est à pleine capacité, elle doit être mise aux normes. Mais le coût que ça représente pour eux, c'est trop important. Oui, le gouvernement a amélioré certains programmes, mais là, on est vraiment dans des stratosphère de prix là, dans ce genre d'ouvrage-là. Donc, nous, ce qu'on suggère, ce qu'on voulait proposer, c'était un fonds qui est dédié pour les municipalités, mais en fonction des délais d'émission des permis de construction.
Merci beaucoup, Virginie Dufour, pour cette première à La Haut sur la colline. J'étais très content de vous rencontrer.
Et,
au plaisir. Merci.
En espérant que ce ne soit pas la dernière.
Ben oui, certain. Donc, Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, on n'a pas eu le temps de parler d'environnement, mais elle est critique en matière d'environnement, en plus de l'habitation. Vous reviendrez, Virginie. Au revoir.
Ça me fait plaisir.